Bonjour chers amis, bienvenue à toutes et à tous par ce beau temps hivernal. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », même s'il faut vaincre la neige. Nous avons ce matin deux privilèges inestimables auxquels peut-être nous sommes trop habitués. Connaître le seul vrai Dieu. On a fini l'errance spirituelle, c'est un grand privilège. Et le deuxième, c'est que nous avons la liberté de nous rassembler sans qu'il y ait un danger pour nos vies. Je dis pour le moment. J'adresse une chaleureuse bienvenue à celles et ceux qui seraient venus ici par hasard, parce qu'il fait froid, qui veulent voir ce qui se passe dans une église évangélique. Eh bien, bienvenue, vous verrez. Dieu nous parle, Dieu nous accueille, il nous parle mystérieusement à l'intérieur de nous par son esprit. Bienvenue également à Michael Mutzner, notre orateur d'aujourd'hui, qui est pasteur à l'église évangélique de Meigné, qui est le secrétaire général du réseau évangélique suisse. Alors on se réjouit de l'entendre. Nous avons le plaisir aussi d'avoir les enfants avec nous au début de ce culte. Je commencerai par une petite histoire à leur intention. Il y en a qui sont déjà un peu prédicateurs, là-bas au fond. Mais d'abord, je vais prier pour remettre ce moment au Seigneur. Merci Seigneur de la joie de nous retrouver, d'avoir ce privilège d'être libre, de venir ici sans une menace et de retrouver cette fraternité de gens pardonnés que nous sommes, où nous sommes tous égaux devant toi, sur le banc des pardonnés. Merci pour ce privilège et veuille incliner nos cœurs de manière à ce que nous comprenions ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. Alors les enfants, comme promis, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais venir m'approcher un petit peu de vous. Je vais vous raconter une petite histoire de quand j'étais petit. Alors, évidemment, c'est vieux. Ça date de 55-60 ans. C'est pas très récent, mais on vivait déjà des choses et j'allais à l'école, comme vous. Et parfois, quand un copain avait un anniversaire, eh bien, il nous invitait. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Est-ce que quand une copine ou un copain a un anniversaire, il vous invite pour manger quelque chose, un bon petit goûter? Et moi, j'aimais beaucoup être invité. Certains pouvaient inviter toute la classe, c'était rare, et d'autres, ils invitaient que 2, 3, 4 copains. C'était les parents qui décidaient combien de copains ils pouvaient inviter. Donc, moi, quand j'étais invité, j'étais tout content. Mais pourquoi on se réjouit pour aller à l'anniversaire d'un copain? Idée?
On se réjouit? Oui.
On se réjouit plutôt, on y va en général. Moi, j'aimais beaucoup parce que, d'abord, on retrouvait des copains. On faisait des jolis jeux, des petits concours, des fois on recevait un petit lot, un petit objet parce qu'on avait gagné la bonne réponse. Ou bien, je me réjouissais pour ce qu'on allait manger, des bonnes choses. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des petits sandwichs, des petits canapés. Je parle pas des fauteuils, hein. Je parle des petits toasts garnis avec des bonnes choses. Et puis, il y avait aussi du coca, des chips, et il y avait le mieux, c'était le gros gâteau, plein de crème et de sucre, et ça, c'était le bonheur. Alors, on aurait manqué pour rien au monde d'aller à l'anniversaire d'un copain. Ça, c'était vraiment bien. Et je vais vous raconter une histoire bizarre qui se trouve dans la Bible, c'est qu'une fois un monsieur a décidé de faire un grand goûter, un grand dîner, il a invité ses amis, il leur a dit je vais vous offrir un grand dîner. Donc, ils avaient de quoi se réjouir. Et bizarrement, ils ne sont pas venus. Le monsieur en question a préparé le dîner avec ses serviteurs. C'est dans l'époque du pays de Jésus, du pays du Proche-Orient. Il y a des serviteurs, on prépare les choses en détail, tout était beau. Et voilà que quand tout est prêt, le maître va chercher, enfin il envoie un serviteur chercher les amis. Il dit, allez les chercher chez eux pour être sûr qu'ils ne se perdent pas, pour être sûr qu'ils trouvent l'adresse. Et voilà que ce qui est bizarre, c'est que les invités, qui avaient un grand repas prêt pour eux, ne sont pas venus. Pourquoi ne sont-ils pas venus? Une idée?
Pas envie? Pas content? Il n'aime pas? Pas dit.
Oh, vous en avez peut-être, mais vous n'osez pas le dire. Alors, pourquoi ils n'ont pas voulu venir? Alors, c'est pour des motifs que je vais essayer de vous expliquer ça. Le premier a dit, excuse-moi, il a dit au serviteur, excuse-moi, j'ai acheté un champ, bon c'est à la campagne, alors il dit j'ai acheté un champ, je vais aller mesurer, je vais le voir un peu comment il est. Il aurait pu y aller le lendemain, mais c'était important pour lui, il a dit ah moi, je vais aller voir mon champ aujourd'hui. Un champ de terre, je ne pense pas qu'il va se modifier, mais bon, excuse-moi, je ne viens pas. Le deuxième a dit, excuse-moi, j'ai acheté un tracteur, à l'époque c'était des bœufs pour tirer les charrues, mais on dirait aujourd'hui un tracteur, je vais aller l'essayer. Il aurait pu l'essayer un autre jour, mais il a dit non, je vais l'essayer, je ne viens pas. Le troisième a dit, oh, je viens de me marier, oh, je n'ai pas envie de faire encore une fête, j'ai déjà fait une fête d'une semaine, alors j'en peux plus, alors je ne peux pas venir. Donc, ils avaient tous des excuses comme ça. Et le serviteur, il est rentré à la maison, il avait une peur bleue de dire au maître, mais ils ne veulent pas venir. Ben, il est quand même rentré, il a dit au maître, écoute, ils ne veulent pas venir. Qu'est-ce qu'il a pensé le maître? Qu'est-ce qu'il a pu leur dire? Qu'est-ce qu'il a pensé? Oh, il était quand même pas très content. Hein, si vous invitez vos copains, puis dites non, je ne veux pas venir. Donc, le maître était très fâché. Il était très fâché. Il a dit à son serviteur, quoi, je les invite? Ils ne veulent pas venir. Ah, c'est comme ça. Eh bien, retourne, va dans le village, va dans la ville, puis tu prends tous les gens qui sont pauvres, tous ceux qui n'ont rien, enfin qui ont peu à manger, qui sont aveugles, qui sont boiteux, qui sont malheureux, qui ont des problèmes, qui sont chômeurs, ramène-les et on va leur donner le dîner à eux. Et les amis qui étaient invités, tant pis pour eux. Et la maison a été remplie de personnes qui ne s'y attendaient pas, qui étaient très heureuses d'avoir un magnifique dîner. Alors Jésus a raconté cette histoire pour dire, au fond, si on veut être ami avec lui, ou si on veut nous souvenir de lui, il faut parfois lâcher des choses qui nous paraissent importantes, mais qui ne sont pas très importantes. Alors, je me disais, ouais, ça pourrait être quoi? Ah, ça pourrait être notre PlayStation, ça pourrait être notre ordinateur, notre petite tablette, notre petit téléphone. À votre âge, vous n'avez peut-être pas forcément une tablette et un téléphone, mais ça viendra. Et je me disais, ce qui est le plus difficile à lâcher pour penser à Jésus, pour se dire, il est avec nous, eh bien, c'est le temps. Au fond, c'est le temps qu'on a de la peine à lâcher. On a toujours autre chose à faire. Et donc, Jésus est toujours avec nous, il le dit, mais comme on ne le voit pas, on a tendance à vivre un peu comme s'il n'était pas là. Donc, on va essayer de se souvenir de temps en temps, de se dire, mais oui, mais il est quand même là, je vais essayer d'y penser un peu, ou je vais de temps en temps lire un livre qui le concerne, un petit bout de la Bible, et se dire qu'il est toujours avec nous. C'est un ami. Alors, s'il est un ami, s'il est notre ami, on va essayer de ne pas l'ignorer. Voilà l'histoire bizarre, mais qui nous concerne quand même. Alors, je vais maintenant passer la parole au groupe de louanges qui va nous entraîner pour célébrer Jésus qui est avec nous.
Bonjour. Alors, moi, ce que j'avais préparé, c'est un petit peu aller un petit peu plus loin que ce que Philippe a dit. C'est de se dire, quand on passe du temps en présence de Dieu, ce qui m'encourage, c'est de savoir qu'il y prend plaisir, qu'il se réjouit de ses moments, qu'il attend ses moments, il les souhaite. Et vraiment, il se réjouit de chaque petit moment qu'on passe avec lui. Et je trouve que c'est une chose qui est encourageante. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que, comme l'a dit Philippe, ben souvent on a d'autres priorités et puis Dieu doit souvent attendre. Mais je sais aussi que je peux revenir à n'importe quel moment, tel que je suis et qu'il m'accueille. Et quand on s'arrête un peu dans sa présence, il nous remplit de sa paix, de sa joie, de son amour. Et on est tellement bien. Et Dieu se réjouit maintenant pour le temps qu'on va passer ici, dans sa présence, à le louer. Et je vous propose de commencer par tel que je suis.
Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. T'as porté ma vie, tel que je suis. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour changer ma vie, tel que je suis perdu, ma vie n'a plus de saveur. Tel que je suis, je n'en peux plus, viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur. Le salut me repose. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie, tel que je suis. Seigneur, au pied de ta croix, je reçois ta vie, tel que je suis, tu m'as aimé, en acceptant la douleur, tel que je suis, tu m'as sauvé, je viens t'offrir le chant de mon cœur. Seigneur et mon Dieu, en toi j'espère, le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi, tel que tu es.
Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis, te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. On chante le 923.
Cherche ta présence et souffre. connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans la lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. Ta paix a envahi mon âme, prosterne et je reçois ta vie. Mon âme cherche ta présence, elle soupire après les parvis. Te voir, te connaître et entendre ta douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. Ta paix a envahi mon âme, prosterne et je reçois ta vie. Ta paix a envahi mon âme, prosterne et je reçois ta vie.
Père, être près de ton cœur, c'est ce que je désire. Voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Où aller, Seigneur? Où fuirais-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure, je ne veux pas être ailleurs. Le 811. Père.
Ta splendeur, c'est
Mais quand on a passé du temps dans sa présence, quand on est rempli de la présence de Dieu, nous sommes petit à petit transformés et appelés à le refléter. Nous chantons, nous tous qui reflétons.
Voilà les enfants, je vais encore prier pour vous, pour les jeunes aussi, et pour les moniteurs. Seigneur, merci pour le temps que tu offres maintenant à nos jeunes, aux enfants, aux ados, et te demandons de les bénir, soit aussi avec ceux qui les accompagnent, avec nos moniteurs aussi, les remplir de ta joie ce matin. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Je vais lire le texte de la prédication que Michael Mussner va nous amener. C'est dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 8. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Voilà, j'invite Michael.
Merci pour cette lecture. C'est vraiment un beau texte et quand il est lu comme ça, je trouve qu'il y a une puissance dans ces mots. C'est un texte qui parle de beaucoup de choses et qui parle notamment d'un thème, qui parle du thème de la course. Et je sais qu'ici, il y a pas mal de coureurs dans cette église, moi-même j'en suis un. Et du coup, je me suis dit que ce serait certainement un thème approprié pour ce matin. Avant de parler de course, en fait, j'aimerais parler d'un film. Imaginez un monde où le temps qui vous reste à vivre soit inscrit sur votre bras. Comme ça. Ah, pas comme ça.
Ça va marcher.
Ça va marcher. Ok, voilà. Voilà, là, non, là, c'est ça, c'est une personne qui a encore un jour, 0 heure, 12 minutes, 50 secondes. Bon, dans ce film, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent recharger leur temps. Donc, comment ça se passe dans ce film qui s'appelle Time Out? C'est que, en fait, les gens, ils ont inventé, on est en 2070, et les gens ont trouvé comment vivre éternellement. Et donc, les gens grandissent, ils arrivent jusqu'à l'âge de 25 ans, et à l'âge de 25 ans, ils ont un compte bancaire temps, la ressource temps, ressource jour, et ils ont un an à disposition, et il va falloir qu'ils gagnent leur vie à partir de l'âge de 25 ans, qu'ils gagnent leur temps, et le temps qu'ils vont gagner, ils peuvent le créditer sur leur compte, et ça leur permet de continuer de vivre. Alors, il y a les pauvres, qui vivent au jour le jour dans ce film et qui ont juste assez pour gagner, pour tenir un jour de plus. Hein. Et puis il y en a d'autres qui vivent dans d'autres endroits. Il faut payer des péages très chers en temps pour arriver dans ces endroits-là et qui vivent avec des millions d'années sur le bras. Donc ça nous fait penser peut-être un petit peu à certains aspects de notre monde avec les inégalités qu'il comporte. Et puis du coup, il y a des personnes qui vivent au jour le jour, qui doivent gagner leur vie. S'ils ne travaillent pas, il faut qu'ils aient un ami qui leur donne du temps parce que sinon... sinon le lendemain ils meurent quoi. Ils ont besoin d'avoir une forte solidarité et voilà. C'est un film qui est intéressant. Moi ce que je trouve intéressant pour nous c'est de réaliser que nous aussi en fait on a un compteur et on a un nombre de jours, un nombre d'années de combien de temps on a devant nous, mais on a un temps qui est limité. On a passé déjà tous un certain nombre de jours sur Terre et il nous en reste un certain nombre, on ne sait pas combien, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais on ne sait pas, mais en tout cas, on a un nombre de jours qui est limité. Et du coup, ça pose la question de savoir comment faire un bon usage du temps que j'ai. Si on avait un compteur au bras, là, peut-être qu'on se dirait, oula, mais en fait, il ne me reste plus que tant de jours, et qu'est-ce que je vais faire de ces jours? Moi, j'ai calculé, il y a des programmes qui calculent ça, hein. Moi, j'en suis à 11 906 jours sur Terre. Et si, mettons, si je venais à vivre 80 ans, ce qui me paraît déjà un bon score, je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à là, peut-être qu'il me reste que quelques jours, il me resterait 17 314 jours à vivre. Voilà. Et chaque jour, un de moins. Alors, de temps en temps, je regarde ce compteur là que j'ai, puis je regarde... attention, hein, tu vois, regarde, ça descend. Mais oui, parce que des fois, on vit comme si la vie ne s'arrêtait pas. Mais en fait, notre vie, elle a une durée limitée. Il y a un certain nombre de jours. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces jours? On a envie d'en faire un bon usage. Et le texte qu'on a lu, Paul, il arrive et lui, il dit, moi, au compteur, il ne me reste plus que quelques jours. Mais je suis content, parce que j'ai fait un bon usage des jours que Dieu m'a confiés. Alors peut-être, quand on regarde en arrière, il y a des moments, il y a des choses desquelles on est fier, d'autres on est moins fier, et ça fait partie de la vie. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire, le temps qui nous reste, qui est devant nous, ce temps-là, on a un certain contrôle sur la manière dont on va l'utiliser, utilisons-le bien. Si vous savez qu'il vous reste maintenant un nombre de jours limité, qu'est-ce que vous feriez en priorité? Ce serait quoi qui serait le plus important pour vous? Bah, c'est une bonne question à se poser, parce que c'est la réalité. Il vous reste un nombre de jours limité. Je ne sais pas combien. Alors Paul lui dit, ma vie c'était comme une course. Et la première chose à laquelle il compare sa course, il dit, ma course, c'est une libation. Une libation, il dit, au verset 6. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. Le moment de partir. Alors il dit la libation. La libation, c'est quoi ? C'est une offrande. Donc ça fait partie du système sacrificiel de l'Ancien Testament. Il y avait les libations. Les libations, c'était une offrande sous forme liquide. Donc soit sous forme de vin ou d'huile ou comme ça. Et dans le système des sacrifices, ça arrivait toujours à la fin, la libation. C'est-à-dire avant, vous aviez d'autres sacrifices, des holocaustes, etc. Et puis, quand il y avait la libation, c'était à la fin. Donc c'était le dernier sacrifice. C'est comme si Paul nous disait, ma mort, ça va être mon dernier sacrifice dans ma vie. C'est la dernière chose que je dois encore traverser dans ma course. Ma dernière épreuve, ça va être ma mort. Et l'idée de libation, de quelque chose qui va couler, c'est comme s'il dit, moi je vais m'offrir moi, c'est mon sang qui va couler. Moi je vais mourir en martyr et ça sera mon dernier sacrifice à moi dans ma vie. Alors, on disait qu'on se demandait comment bien utiliser le temps qui nous reste. Voilà Paul, ce qui lui reste, il dit, moi le temps qui me reste, comment je vais bien l'utiliser, ça va être d'affronter avec courage ma dernière épreuve, mon dernier combat, et ça va être la mort en martyr. Ok. Alors quand vous vous êtes imaginé, qu'est-ce que je vais faire du temps qui me reste, je ne sais pas si c'est à ça que vous avez pensé, à une mort courageuse, manière courageuse d'affronter la mort. Pas forcément, même si c'est à un moment donné peut-être quelque chose qui nous attend nous aussi, et en tout cas c'est quelque chose auquel certains de nos frères et sœurs sont confrontés. On vient de faire le dimanche l'église persécutée, peut-être vous aussi ce mois-ci. C'est quelque chose auquel certaines personnes sont clairement confrontées, de devoir affronter le martyr. Pour Timothée, pour Paul, sa course, sa mission, en tout cas sa dernière épreuve, c'est ça, c'est d'affronter la mort en martyr. Mais Paul parle aussi de la course qu'il propose à Timothée. Et à Timothée, il propose une autre course. Et il dit, toi, ta course à toi, ton objectif à toi, ton ministère à toi, eh bien, c'est de proclamer l'évangile. Et de la même manière que moi, je montre en exemple dans la manière courageuse dont je vais devoir affronter ma vocation, eh bien, toi, il va falloir que tu sois courageux dans la manière d'affronter ta vocation. Tu vas avoir des moments de souffrance, mais ce qui compte, c'est que tu restes fidèle à ta vocation. Et ta vocation, c'est d'annoncer l'évangile, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient favorables ou pas, que tu sois bien reçu ou pas, toi, reste fidèle à ta vocation. Donc Paul se pose en exemple et puis il dit à Timothée, toi, tu vois, tu as une autre course, tu as un autre profil de parcours. C'est comme si chacun, on avait différents profils à affronter. Donc il y en a, peut-être. Alors ça, c'est une course qui est en Suisse, qui est à Verbier. C'est, on part de Verbier, on finit à Verbier, vous me direz, ça sert à quoi? on voit du paysage entre-temps, je peux vous dire. Parce qu'il y a 110 km et je crois 8000 mètres de dénivelé à peu près. Donc voilà, ce sont des gens qui partent très tôt le matin, qui mettent en général 24 heures quand ça se passe bien, voire plus pour parcourir cette course-là. Donc certains, leur vie, peut-être, ils ont l'impression que la course que Dieu leur demande d'affronter, c'est ça leur vocation. Une vie pas simple, avec beaucoup de défis qui nous sont proposés, mais moi, il faut les affronter. Paul, il est devant un gros défi, et il en a eu beaucoup. Et là, c'est comme s'il avait encore un dernier sommet à gravir dans la course qu'il a à faire. Il y en a d'autres, ils ont parfois peut-être des profils plus simples, mais je ne crois pas qu'il y a de course totalement simple. Ça, c'est un profil un peu plus simple. Je ne sais pas où c'est, mais bon. Voilà, il y a un petit peu de dénivelé. Il y a quand même 140 km, on dirait. Donc, c'est aussi une belle épreuve, on va dire. Voilà, je ne sais pas quel est le profil de course que Dieu vous a donné à vous. Peut-être c'est une course un peu plus simple qu'un autre. On a chacun une course différente à courir. Paul dit, ça, c'est ma course qui arrive au bout. C'est la sienne. Et la vôtre, je ne sais pas où elle en est. Mais ce qui est sûr, c'est que on est appelé à l'affronter avec courage, à être des héros. On a tous quelque chose de différent qui nous est proposé, mais ce que Dieu nous demande, c'est de l'affronter avec courage en allant jusqu'au bout. Que notre manière de vivre, que notre manière d'affronter ce parcours, eh bien, témoigne qu'on croit en Dieu, qu'on veut le glorifier, que le plus important pour nous, c'est lui. On n'est pas tous appelés à vivre la même chose, on n'est pas tous appelés à vivre en martyr, heureusement, mais on est tous appelés à courir la course que Dieu nous demande de courir, et de la courir jusqu'au bout. Moi, je vois que des fois, ben, il y en a certains, les appels à des choses très encourageantes, et d'autres à des choses difficiles. Il y a des fois certaines personnes ou certaines églises qui vivent, qui vivent un réveil personnel, qui vivent des miracles, qui vivent des victoires dans leur vie, et puis on est émerveillé. Et puis d'autres qui vivent des choses difficiles. Et puis on se dit, ben voilà, pourquoi? Et puis en fait, on se rend compte que ben, chacun, Dieu nous propose des choses différentes, mais qui nous demande de traverser avec fidélité, en restant fidèle à ce qu'il nous a demandé à nous. Et à quelqu'un d'autre, il a demandé autre chose. À une autre église, il a demandé autre chose. À une autre personne, il a demandé autre chose. Et il ne faut pas se comparer. On a chacun notre course à courir. Et ce que Dieu nous demande, c'est de rester fidèle à la course qu'il nous a proposée. Un texte qui m'aide beaucoup, c'est un texte qui est dans Hébreux 11, où il y a une liste des héros de la foi. Et quand on finit sur la fin de cette liste des héros de la foi, je ne vais pas la lire maintenant, mais vous pouvez la lire chez vous. Quand vous voyez cette liste des héros de la foi, ça commence avec... Il y a toute une liste de personnes qu'on connaît, puis après ça continue avec une énumération, et puis Dieu dit voilà, il y a telle personne, je les ai bénis, j'ai accepté leur sacrifice, et puis ils ont vécu des victoires extraordinaires. Il y a des personnes dans les héros de la foi de Hébreux 11 qui ont conquis des royaumes, qui ont fermé la gueule des lions, qui ont éteint des feux violents, qui ont échappé aux tranchants de l'épée, ils ont été remplis de force, ils ont mis en fuite des armées ennemies, des femmes ont même vu des résurrections. Voilà, toute une liste de choses. On dit, ouais, ça fait envie de courir cette course-là. Hein. On a envie de s'inscrire à cette course-là. Celle-là, ça motive, ça en vaut la peine. Voilà, une belle course, une belle chose, un beau vécu, un beau profil. Et puis, ça continue. Il y a d'autres héros. D'autres héros. Ça y est, je l'ai faite. Et avec la même foi, ils ont tenu face à la torture, à la persécution, les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été, pour certains, tués à coups de pierre, sciés en deux, mis à mort par l'épée. D'autres ont mené des vies errantes, comme des SDF sans domicile, avec le minimum pour vivre. Les mêmes héros, dans la même liste, on a les uns et les autres. Et comme si, ben, ils avaient d'autres courses, qui leur étaient une autre course, un autre parcours, un autre profil qui leur était proposé. Mais tous, ils font partie de la même famille, des personnes qui ont été fidèles à leur vocation. Ils ont été des héros de la foi. Parce que dans leur manière de vivre, la victoire ou l'épreuve, ils témoignaient qu'ils attendaient quelque chose de plus grand, qu'ils vivaient pour quelqu'un de plus grand, qu'ils ne le vivaient pas pour eux, mais qu'ils vivaient pour Dieu. Paul continue, après nous avoir expliqué ce qu'était cette vie comme une libation qu'il attendait, en tout cas dans la fin de sa course. Il continue et il dit que sa course, c'est aussi un bon combat. Alors, il dit précisément qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course, il a gardé la foi, qu'il a fait un bon usage de son capital jour. Alors, le terme qui est utilisé ici pour combat, je regardais un petit peu ce que c'est comme mot, pour bien comprendre si on était ici dans une métaphore militaire ou dans quelque chose d'autre. Et en fait, c'est le mot « agon » en grec qui est utilisé ici. Alors « agon », ça fait peut-être penser à « agoniser », voilà. Ce n'était pas le sens premier, même s'il y a un lien. Alors, je vais vous expliquer. « Agon », en fait, c'est un mot grec qui veut dire, qui fait plutôt référence à l'arène, au lieu où se passaient les combats dans l'arène, dans le stade, quoi. Donc, où il y a toutes sortes de compétitions, y compris les gladiateurs, mais aussi d'autres sortes de compétitions. Et l'idée de Agon, c'est plutôt compétition, arène, l'endroit où se déroule le combat. Mais un combat au sens large. C'est un combat où il peut être question de vie et de mort. Mais en tout cas, le mot Agon, c'est plus le mot compétition. Le mot, voilà. Et en latin, ça a donné justement Agonia, qui est aussi combat, concours. C'est ça que ça veut dire au début. Et le dernier combat de la vie, bah, c'est justement agoniser, c'est de là que ça vient, agoniser, c'est le dernier combat que vous affrontez dans votre vie, le combat contre la mort. Donc, mais la racine du mot, ça vient plutôt du combat. Donc combat, combat, compétition. Et puis il dit que c'est un bon combat. Et le mot bon ici, qui est le mot kalos, J'ai regardé tout ça, moi je ne connais pas le grec, mais... Et c'est dans le sens même plutôt quelque chose de beau, de juste, de précieux, d'adapté, d'approuvé, d'honorable, quelque chose de bon, de noble, d'honnête. C'est comme si on avait dit un petit peu, c'est comme si Paul arrivait à la fin de la partie et qu'il disait « beau match ». Voilà, beau match, beau combat, belle partie, bravo, belle course, tu t'es bien battu. C'est ce sens-là de bon combat. J'ai combattu le beau combat, j'ai tout donné et je vais tout donner jusqu'au bout. Ça n'a pas toujours été simple, mais voilà, beau match, beau combat, belle course. Moi, ça, ça me parle parce que pour arriver à faire une belle course, il y a toute une préparation, il y a tout un entraînement, il y a une hygiène de vie, il y a des tas d'efforts, des sacrifices qui sont faits pour arriver à parcourir une belle course où vous êtes fiers de ce que vous avez accompli. Et puis on se prépare, après on prépare juste avant la course, on étudie le parcours, on s'entraîne spécifiquement pour cette course-là, peut-être on s'entraîne sur l'escalade, alors on va travailler un petit peu d'allure spécifique, donc on s'entraîne à courir au rythme qu'on aura pendant la course, on s'entraîne à courir avec des petites montées parce qu'on sait que ça a monté un petit peu, on affûte les chaussures parce qu'on se dit que ça a peut-être glissé un peu, on prend des bonnes nouvelles chaussures, voilà, on prépare une course. Et puis après, le jour de la course arrive, puis là, on donne tout. Et puis après, c'est égal qu'on soit premier, deuxième, on ne se compare pas forcément aux autres, mais on est fier si on est arrivé au bout et qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Moi, il y a une personne dont je suis particulièrement fier cette année, qui a fait une course remarquable, à mon avis. Certains d'entre vous la connaissent. J'ai la chance de travailler avec elle au réseau évangélique suisse. Ce n'est pas Catherine, même s'il y aurait des raisons d'être très fier d'elle aussi. C'est Nathalie qui travaille avec nous aussi, qu'il y a plusieurs bénévoles d'entre nous qui nous aident pour les pliages, merci, il y en aura un demain d'ailleurs, je sais que certains seront là, et Nathalie sera là aussi. Nathalie, elle a fait une course cette année, elle s'est inscrite pour Sierzinal. Alors certains de vous ont fait Sierzinal, donc vous savez que c'est un gros morceau, c'est une course de montagne, et elle s'est inscrite ça alors qu'en fait elle est malade, elle a un Parkinson, et j'ai le droit de le dire, hein, c'est quelque chose qu'elle m'a autorisé à dire, et elle s'est lancée ce défi là malgré tout de pouvoir, c'était son défi de l'année vraiment de faire cette course là elle s'est inscrite, elle s'est préparée, elle s'est entraînée avec une coach qui lui a fait un programme d'entraînement. Puis le jour de la course est arrivé, elle était vraiment nerveuse parce que c'était un gros défi pour elle, et comme il y avait beaucoup de personnes qui s'était mobilisée autour d'elle, des sponsors, l'hôpital de Genève, etc. Elle avait la pression vraiment d'arriver au bout. Et puis elle est partie, il y avait du monde, elle était en retard sur les horaires. Et il y a un horaire limite dans lequel vous devez finir la course, sinon vous êtes disqualifié. Donc elle était juste à la limite. Et donc ceux qui la voiture balait, quoi, qui ferment la course, ils étaient avec elle, ils l'accompagnaient comme ça. C'était la dernière coureuse en course encore. Et puis elle a tenu bon, elle est allée jusqu'au bout. On pouvait la suivre sur WhatsApp, on recevait des nouvelles comme ça. Et donc, quand on l'entendait à Chandolin, elle était essoufflée. On se disait, oh là là, mais ça va être dur pour elle de finir. Moi, j'étais un peu inquiet pour elle. Et puis, elle a retrouvé des forces, elle a continué, elle a réussi à finir. Et là, ça, c'est quand elle arrive à la ligne d'arrivée, il y a ses fils qui sont là, qui l'accueillent, qui disent, bravo maman, on est fiers de toi. C'est de ça que parle ici. J'ai beau match, belle course, on est arrivé au bout, bravo, génial. C'est ça la course que Dieu vous propose de vivre aussi, et vous demande d'aller jusqu'au bout, de donner le meilleur de vous, et d'être fier à l'arrivée, et dire, mais bravo, elle, c'était la dernière, mais c'était quelle victoire pour elle, quoi. C'est ça qui compte. Et quand on arrive à la fin de ces grandes courses, souvent on reçoit un t-shirt finisher, donc qu'on a terminé la course, on est fier. Ce qui compte, c'est pas vraiment le classement, ce qui compte, c'est dire, moi, regardez, cette course, je l'ai faite, j'ai participé et je suis arrivé au bout. On fait partie des finishers. C'est une fierté. Alors, par exemple, elle est pas là. Voilà, ça, c'est par exemple la course de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ça, c'est une des références dans la course course de montagne trail. Quand vous avez fait une course comme ça, ça veut dire que vous avez dû faire déjà tout un tas de courses qualificatives pendant 2 ans pour avoir le droit de faire partie des inscrits. Et ensuite, si vous avez pu participer et que vous êtes arrivé au bout, c'est un t-shirt où c'est marqué que vous avez réussi un grand exploit. Et moi, je crois que c'est de ça dont Paul nous parle ici. Il nous invite à être des finishers et à être fiers de ça, à aller jusqu'au bout et dire, voilà, ça, c'est la course qui nous est proposée. Moi, je vais aller jusqu'au bout et je serai fier à l'arrivée. Belle course, beau match. devant cette proposition d'aller jusqu'au bout de notre course, je crois qu'il y a, deux écueils à éviter. D'une part, celui de la passivité. Et je crois que c'est un écueil qui nous guette souvent aujourd'hui. C'est de ne pas courir la course, de même pas prendre le départ, de nous laisser bercer par la vie au lieu de dire « mais j'ai un temps limité, j'ai une course à faire, il faut que je m'organise, il faut que je prenne les choses en main », d'être intentionnel dans sa vie, de chercher la volonté de Dieu, de savoir quel est l'appel qu'on a sur notre vie et d'y aller, quoi, d'être fidèle à cet appel. Je pense qu'un des écueils, c'est la passivité, c'est de ne pas prendre le départ de la course. Un autre écueil, c'est de combattre le mauvais combat, au lieu de combattre le bon combat, de se tromper de course et de prendre un parcours qui n'est pas celui que Dieu nous a proposé. Et de se battre et de mettre de l'énergie là où il ne demande pas forcément de nous battre et de mettre de l'énergie. Donc choisissons bien notre combat, choisissons bien là où Dieu nous demande de nous battre, dans le bon sens du terme. Donc demandons à Dieu de nous montrer son appel, ce qu'il nous demande de traverser, et battons-nous au bon endroit, battons-nous pour lui. C'est pas la peine de se battre pour sa réputation, ou pour une place, ou pour notre sécurité, ou des choses comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on veut se battre vraiment? C'est quoi notre course? C'est quoi le défi central que Dieu nous propose? Il est où? Alors, je vous propose de prendre le temps pour vous-même de vous repositionner et de prendre le temps de réfléchir, mais c'est quoi ce défi à moi que je dois relever? Peut-être que vous êtes en ce moment devant un défi, puis vous aurez envie de partir, justement de fuir le défi, mais affrontez-le avec courage, vous ne serez pas tout seul. Vous ne serez pas tout seul parce que Jésus nous promet, dans ce passage, Paul nous dit qu'il y aura une récompense à l'arrivée. Il est question d'une couronne de justice. Donc Paul sait que son départ est arrivé, mais qu'il y a autre chose après. Et le fait de savoir qu'il y a cette couronne de justice, qu'il y a cette récompense des finishers, cette récompense qui va arriver, qui aura pour tous ceux qui auront traversé la ligne d'arrivée, et bien c'est un grand encouragement pour lui face au martyr qu'il va devoir traverser. Parce qu'il sait que derrière, il y aura encore autre chose, il y aura la récompense. C'est la clé, je pense aussi, pour ne pas se décourager quand on est dans la montée ou qu'on commence à fatiguer. C'est de savoir, il y a une ligne d'arrivée. À un moment donné, ça va s'arrêter, puis c'est un soulagement. Et puis, il y aura une récompense. Et la récompense, elle sera éternelle. Notre course, elle a une durée limitée. Et puis après, ce qui nous attend, cette récompense, elle sera éternelle. Et ce qui est positif aussi, c'est que on n'a rien à prouver dans cette course. Ce n'est pas une course où on doit se comparer aux autres, où on doit finir dans un certain classement ou comme ça. C'est une course où simplement on doit relever le défi que Dieu nous propose à nous, donner notre maximum, rester fidèle à notre vocation. Paul, il avait sa course. Timothée, il avait sa course. Et chacun de vous, vous avez votre course à vous. Pourquoi est-ce qu'on va avoir une récompense et pourquoi on est libéré de la pression? Et pourquoi on sait qu'on n'est pas tout seul dans cette course? Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un avant nous qui a couru cette course aussi, qui a offert sa vie en libation, qui a combattu le bon combat, qui a été jusqu'au bout de sa course. C'est Jésus. Jésus, il est passé par là, il a couru la course parfaitement. Et aujourd'hui, si à un moment donné vous regardez en arrière et que vous voyez que vous avez peut-être pas accompli ce que vous auriez souhaité, sachez que vous êtes au bénéfice de la victoire de Jésus. Et donc même si dans votre course, il n'y a pas que des victoires, vous êtes au bénéfice des victoires de Jésus sur votre vie. Et pour moi, c'est une consolation aussi quand des fois on n'est pas au niveau qu'on voudrait. Ça nous libère de cette pression-là aussi, je crois. Voilà, j'aimerais terminer simplement avec cet encouragement à chacun de vous de chercher à être des finishers. J'espère que cette métaphore de la course vous a parlé, pas qu'aux coureurs, aux autres aussi. Et voilà, moi je suis convaincu que chacun de nous, on a une belle course qui nous est proposée et que Dieu vous donne les forces, le courage et la joie pour courir votre course jusqu'au bout. Merci.
Alors pour suivre, nous allons nous préparer à la scène et je vous propose de chanter le numéro 756 avec notre groupe. Merci.
souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés.
Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui l'as payé. Je m'incline et je t'adore en esprit et en vérité.
Si grand amour, je ne l'ai pas mérité.
Je me demande
simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter.
Voilà, nous allons célébrer maintenant la scène. Pour l'introduire, je rappellerai simplement que l'apôtre Pierre, dans sa course, a eu une vision et il voyait des animaux et une voix lui dit « Mange ces animaux ». Il en a été horrifié parce qu'il y avait dans ces animaux des animaux impurs selon la loi juive, et il a dit « Jamais, je ne vais jamais faire ça. » Il défendait la juste piété. Mais la voix a insisté, lui a dit « Tu manges. » Il n'y comprenait rien, mais les circonstances ont fait qu'il a compris le sens de cette vision. Et je vous lis quelques mots. Il a été convoqué chez un certain Corneille, et là-bas, il a commencé à comprendre. Et il leur a dit, il a dit à Corneille et à sa famille, « Maintenant je me rends compte, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les humains. Au contraire, dans toute nation, toute personne qui le révère et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Nous sommes les témoins de tout ce que Jésus a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire nous, témoins de toute première catégorie. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. » La résurrection de Jésus, ce n'est pas un esprit fantomatique. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés. Voilà ce que nous allons rappeler par la scène. Il est important de savoir et de nous souvenir que le pardon est pour tous les hommes, pour toutes les femmes, de toutes les nations, tous ceux qui révèrent Dieu et qui croient que la prêtrise de Jésus procure le pardon des péchés. Et nous allons lire l'anamnèse.
Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres et leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versée pour vous. »
Nous allons prier. Seigneur, que ton esprit nous accorde de discerner dans ce pain et dans ce vin les signes de ton corps et de ton sang donnés pour nous. Ce corps sur lequel tu as pris le péché du monde pour le crucifier, ce sang qui a coulé pour purifier notre conscience. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce moment, nous pouvons nous en rappeler. Amen.
Pendant la distribution, sentez-vous libre de raisonner, de prier à haute voix ou intérieurement par rapport à ce qui a été dit par Michael et par rapport aussi à ce repas que nous partageons. Pour les visiteurs, au centre, c'est du jus de raisin et la coupe ici, faites-nous signe. Merci.
Amen. Seigneur notre Dieu, nous avons participé à ce repas. Nous avons entendu que dans les derniers temps, ces derniers temps seront difficiles. Les hommes chercheront des doctrines agréables. Nous sommes dans ce temps. Nous savons que ces temps difficiles sont là. Et nous voulons te prier pour ceux qui en sont déjà un peu des victimes, pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui passent dans ces temps de la tribulation. Nous avons encore ce privilège d'être libres et dans une certaine abondance, mais nos frères et nos sœurs de certains pays souffrent beaucoup. Nous voulons te demander que ton esprit les rejoigne, qu'ils aient cette certitude de ta présence dans ces jours difficiles. De même pour ceux qui sont parmi nous, de ceux qui n'ont pas de travail, de ceux qui ont la santé déficiente, de ceux qui ont des chagrins qui sont secrets, mais qui leur perturbent la vie. Que ton esprit nous oriente, nous donne du sens, nous aide à marcher dans ce monde comme témoins. Amen.
J'invite les musiciens à nous rejoindre. Nous n'allons pas passer à la collecte, mais à l'offrande. Collecte, ça fait un peu collecte d'impôts, collecte de ci ou de ça. Mais c'est l'offrande, c'est une possibilité qui nous est offerte de reconnaître que tout nous vient de Dieu. Par conséquent, que nous pouvons nous dessaisir sans danger d'une part de nos biens pour la cause du royaume à venir. Ben, si l'or et l'argent lui appartiennent, on pourrait penser qu'il n'a qu'à se servir chez les gens fortunés. Mais non. Il ne fait parfois en suscitant leur générosité, bien sûr, mais cela ne dispense pas les autres d'offrir ce que nous pouvons donner avec reconnaissance à Dieu. Voilà pourquoi nous avons ce temps d'offrande volontaire et libre. Nous allons chanter le numéro 791. Seigneur, merci de nous avoir offert cette occasion de partager nos biens, de pouvoir dire que tout vient de toi et tout appartient. Bénis cette offrande et qu'elle se multiplie. Amen. Voilà le venu le temps des annonces. Roger, je te laisse la parole.
D'abord, j'aimerais donner la parole à Charles Abel et Florence qui nous ont représenté à notre rencontre générale hier à Oran. Donc, vous nous apportez quelques nouvelles.
Merci beaucoup. Alors, effectivement, nous étions à Oran pour la journée d'hier. Nous avons pris avec Florence chacun des notes de notre côté. Alors, on va se partager le compte-rendu des points les plus importants et qui nous intéressent au premier chef. Alors, nous avions la demande d'adhésion, pour commencer notre journée, la demande d'adhésion d'une église nouvelle pour nous, mais qui existait depuis un certain nombre d'années, l'église qui s'appelle Multicet. Alors, pourquoi Multicet ? Parce que cette église veut être multigénérationnelle et 7 jours sur 7. C'est là qu'ils ont choisi. Non, et en fait, leur idée et les initiateurs de cette église avaient admiré le fonctionnement de communautés monastiques. C'est pour ça qu'ils veulent que leur église fonctionne tous les jours et qu'ils soient tous les jours des porteurs de l'évangile dans leur région. Et en fait, cette église a fonctionné déjà depuis 8 à 9 ans dans la région d'Yverdon, dans des quartiers périphériques de la ville d'Yverdon. Et jusqu'à présent, ils ont développé l'évangélisation des enfants. Alors, ils sont au début en tout cas, une équipe de 8 couples qui ont travaillé de cette manière. Et avec le temps, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils deviennent une église. Ils auront leur premier culte le 29 de ce mois. Et ils se rendent compte qu'il faut qu'ils s'intègrent dans une fédération d'églises. Et leur choix a été de demander leur intégration dans la FRE.
Tout à dire. Justement, ils demandaient la prière pour ce culte du 29, parce que c'est la première fois qu'ils font un culte dans ces quartiers, parce qu'il faut peut-être préciser que cette église s'est groupée sur 3 quartiers de la ville d'Yverdon. Alors en tout, il y a 2620 habitants, donc c'est assez petit, et puis ils ont la chance, de ceux qui s'occupent de cette église, d'habiter les quartiers. Alors c'est évidemment plus facile pour eux que pour nous qui sommes un petit peu dispersés, hein. Plus facile de faire cette église. Mais enfin, ils sont vraiment une équipe très sympa, et je dois dire qu'on a été tous enthousiasmés d'entendre ce jeune couple qui était tellement, qui nous a parlé. Ils étaient 3 sur l'équipe de 8 qui sont à peu près. Alors, il nous a tellement parlé de cette église qu'on aurait presque envie d'y aller pour leur culte de l'Avent, qui est le 29. Ils ont intitulé ça, c'est la première fenêtre de l'Avent. Alors, évidemment, il y avait des magnifiques clichés et tout était très bien organisé pour nous dire voulait être cette église. Et puis, ce que je trouve aussi très, très chouette, c'est qu'ils vont aller se réunir dans le pavillon, ça s'écrit, c'est le pavillon de la Villette, un quartier, je pense, d'Yverdon, qui appartient à l'église réformée. Alors, c'est ça que je trouve aussi très chouette, c'est qu'on voit qu'ils ont vraiment une très bonne collaboration aussi avec les autres églises et que vraiment, ils sont très enthousiaste et on peut vraiment prier pour cette équipe qui veut rejoindre la population. Ils ont plein d'idées, ils veulent même faire, parce que alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que ils auront la prière, l'église tous les jours, c'est bien joli, mais c'est du lundi matin au vendredi matin, c'est tous les jours la prière, hein, ils auront un moment de prière. Et puis le mardi soir, c'est repas canadien qu'ils offrent, enfin voilà. Puis ils ont plein d'idées, voudraient faire un atelier cuisine, pour tout ça pour attirer la population. Alors voilà, il y a beaucoup d'idées à prendre.
Alors, avec cet enthousiasme-là, bien sûr qu'ils ont été pleinement acceptés dans la FRE, ceci pour une période probatoire de 2 ans. Alors après 2 ans, on pourra encore se prononcer à nouveau sur l'adhésion définitive dans la FRE. Deuxième point qui nous semblait intéressant de vous rapporter, c'est l'activité qui s'appelle transformation. Alors, l'orthographe n'est pas tout à fait conventionnelle, mais enfin, cette transformation, c'est une intention de rejoindre des églises qui, pourrait dire, manquent un peu de souffle avec le temps. Ils nous parlaient d'une voiture, de leur voiture, et des fois, la voiture, ben, le moteur ne veut plus partir. Alors, ce serait l'image de certaines églises qui se rendent compte par eux-mêmes qu'ils ont besoin d'un souffle nouveau, d'un départ nouveau. Et c'est l'équipe qui s'occupe de ça. Il y a évidemment Philippe Botman qui anime le groupe du GAME. J'ai oublié de me renseigner, savoir ce que veut dire exactement GAME. Tu sauras, Roger ? Groupe d'accompagnement.
Bon.
Ah voilà. Et ministère dans les églises. Voilà. Alors, Philippe Bonan est là dans cette activité. Et ce qui est intéressant, c'est que donc transformation, c'est une activité qu'ils ont appris à connaître à l'extérieur. Et il se trouve qu'il y a plusieurs communautés des salutistes qui sentent le besoin justement de ce renouveau dans leur travail, dans leur souffle, dans leur enthousiasme. Et en somme, c'est toute cette activité de transformation, l'aide qui va être proposée aux églises pour cela, sera aussi va se faire avec des communautés salutistes. Alors, c'est aux églises qui sentent ce besoin de s'annoncer et de demander de l'aide. Voilà, tu aurais des choses à dire ? Non. D'accord. Alors, je passe au troisième point. On nous a présenté le nouveau trésorier de la prévoyante. Vous savez qu'André Dufour, qui a rempli cette fonction pendant longtemps, a maintenant désirait se retirer, et il fallait trouver un nouveau trésorier. Et j'ai appris, je l'ai appris hier, que ce nouveau trésorier, c'est Jean-Claude Beauvais. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'Église depuis longtemps, on se souvient de Jean-Claude Beauvais, qui a été membre de notre communauté dans les années 1982 à 88. Jean-Claude et Fabienne, sa femme, ils ont trois enfants adultes. Alors, ils appartiennent, eux, maintenant à la communauté de Glan. Alors, Jean-Claude avait un travail professionnel, enfin, il a toujours un travail professionnel à 50%, parce qu'il a fait plusieurs postes, puis il se trouvait partiellement au chômage. Et alors, il est engagé à 40% par la prévoyante. Alors, il aura ses deux activités dans l'avenir. T'as quelque chose à dire ? Non. Ensuite, nous passons au budget. Donc, on a parlé ici du budget dans notre colloque. Alors, le budget de 2016 est malheureusement un peu déficitaire. On nous a annoncé qu'il y avait la prévision de déficit serait de l'ordre de 20 000 francs. Mais Stéphane Bossel, notre trésorier, notre comptable, nous a dit qu'après avoir eu les informations de toutes les églises sur les participations annoncées par chacune, eh bien, s'il avait eu tous les renseignements au moment où ils ont publié le budget, eh bien, ils auraient dû constater que le déficit risque bien d'atteindre 40 à 50 000 francs. Donc, on est dans une situation un peu difficile. En somme, ce qui a été décidé, c'est d'accepter le budget tel qu'il était présenté et de donner la liberté au comité exécutif, au bureau exécutif, de faire un appel de fonds en cours d'année s'il le juge nécessaire, de manière à pouvoir combler le déficit qui sera ce qu'il sera, qui nous pourront nous annoncer ou qui pourront prévoir. Voilà, tu voulais dire quelque chose ? Non. Alors, cinquièmement, attends, je...
la vision de l'Afrée.
Ah oui, on nous a présenté aussi la vision de l'Afrée. Alors, pourquoi une vision nouvelle pour l'Afrée ? Parce qu'on pense qu'il est bon, enfin, je répète ce qu'on a entendu, bien sûr, on pense qu'il est bon de temps en temps de se reposer la question, quelle est notre vision pour peut-être améliorer nos prestations. Et la vision, c'est en somme confronter une vision avec ce que l'on fait effectivement maintenant. Et en fait, cette vision devrait refléter ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, à notre égard. Et il faut que cette vision, ce n'est pas quelque chose, si on fixe une vision, ce n'est pas forcément ce qu'on va atteindre définitivement et complètement, mais il faut que ce soit une espérance. Alors, on espère pouvoir remplir une vision, vision qui est à définir. Avec cette vision, il y a eu la présentation d'une vidéo, une vidéo qui est très bien faite, qui est très intéressante. Et j'aurais dû dire tout à l'heure aussi qu'il y avait une vidéo qui accompagnait la présentation du budget et les besoins financiers. Alors, je pense que ces deux vidéos, dans chacune une dizaine de minutes, il faudrait vraiment qu'on puisse les visionner ici dans notre église. On ne va pas le faire maintenant parce que c'est un peu court, mais je proposerai, j'espère qu'on pourra, avec le conseil, décider de présenter ces deux vidéos ultérieurement à l'église.
Si tu permets, je crois que la vision de l'église, elle se résume, c'est ce qu'il demandait, c'était résumé dans le verset d'Ésaïe 43, verset 19. Je me permets de vous lire ce texte parce que je pense que ça éclaire vraiment le but de la fédération. Alors, je vais le verset dit dans Ésaïe, je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleurs dans la steppe, des fleuves dans la steppe.
Et le point suivant, c'est par rapport au sondage qui a été fait concernant le journal Vivre. Vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être participé certainement au sondage. Alors, le sondage, selon Serge Carrel, a donné un résultat tout à fait satisfaisant, au point que Serge Carrel et l'équipe du journal se disaient « ben, il n'y a qu'à continuer comme jusqu'à présent ». Mais ils ne veulent pas en rester là, ils veulent malgré tout améliorer la communication par le journal et par d'autres moyens encore que le journal. Alors, leur projet est d'avoir un journal qui ne soit plus à 10 numéros par an, mais qui soit bimestriel, c'est-à-dire 6 fois par an. Et puis plus centré sur les activités de l'Afrée, parce qu'il y a d'autres publications qui nous apportent des activités de l'extérieur, notamment le Christianisme aujourd'hui, que chacun connaît, je pense, et avec lequel il y a déjà, disons, une collaboration entre Vivre et le Christianisme aujourd'hui. Ah oui, ils veulent cibler un peu le contenu du journal sur les 20-35 ans. Mais bon, j'espère que les 80 ne seront pas oubliés. Hein. Voilà. Action de Noël. Alors, il y avait deux actions de Noël qui ont été mentionnées. L'action du SME et l'action, l'autre, c'est quoi ?
C'est pour le Népal. Le Népal.
Ah, pour le Népal.
Marianne.
Oui. Alors, dans le cadre de cette Action de Noël, on a vu Jean-Claude, c'est là?
Oui, on a vu Jean-Claude Saillon.
Oui, il y a une collaboration avec Jean-Claude Saillon et au moyen d'un
Skype,
on a pu échanger avec Jean-Claude qui apparaissait à l'écran. Et c'était l'occasion de lui chanter bon anniversaire, parce que c'était le jour de son anniversaire. Voilà, et le dernier point, on nous a présenté l'église de la Béroche. C'est une nouvelle église de la Fraie. La Béroche, c'est dans le canton de Neuchâtel, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, on a eu toute une présentation de cette nouvelle église de la Béroche. Voilà.
Moi, j'aimerais juste ajouter que si jamais vous avez des connaissances, des amis qui sont hospitalisés au CHUV, alors nous avons, enfin la Fraie, à une nos églises, Valérie Compaoré, qui a été acceptée dans l'aumônerie du CHUV. Alors je trouve que c'est aussi très intéressant de savoir qu'il y a quelqu'un de notre milieu qui peut être dans l'aumônerie du CHUV. Alors elle nous disait, si jamais vous avez des connaissances, sachez que moi je suis en médecine. Alors voilà, elle sera toujours d'accord si on lui transmet des noms, et elle tâchera de s'en occuper. Et puis il y avait aussi, alors peut-être juste encore à rajouter, qu'il y a des besoins dans la Fraie aussi. Il nous a été dit qu'il y avait des besoins de commissaires, donc de gens qui s'engagent dans des commissions, soit des commissions missionnaires. Alors il y a Paul Robert qui pourrait peut-être le dire aussi. Il semble bien qu'il y a la commission Europe, il y a la commission Asie, il y a la commission Afrique, Enfance, la commission théologique, et puis le bureau des rencontres générales de toute l'organisation qui cherche du monde. Alors si jamais vous ne savez pas trop quoi faire, voilà, vous pouvez vous engager. Mais moi, je vais aussi faire mon petit coup de pub, c'est que je trouve que ça vaut la peine d'aller une fois à la rencontre générale, même. Il faut supporter des discours, d'accord, mais en attendant, il y a tellement de choses intéressantes qu'on apprend que vraiment ça vaut la peine. Alors je vous recommande une autre fois. Voilà, ok.
Voilà des nouvelles de la famille d'église à laquelle nous appartenons. Donc c'est important d'essayer de nous situer dans cette grande famille de la Fraie. Donc, en ce qui nous concerne ici, donc nous allons rapidement parcourir mardi notre réunion mensuelle de prière ici dans nos locaux. Voilà, jeudi soir à l'Eau Vive, il y a le beau-fils de Hans et Francisca qui va apporter son témoignage de vie. Il a aussi écrit un livre sur son parcours de vie qui on est encouragé à assister à cette soirée jeudi 20h15. Vendredi, soirée de louange, nous désirons prendre le temps de louer Dieu par le chant, mais aussi un temps d'intercession pour les sujets d'actualité, comme c'est précisé. Free time samedi prochain à l'église Sœur de l'Espérance, 18h, ça concerne les jeunes adultes. Voir Benjamin pour les détails. Dimanche prochain, directement après le culte, nos enfants, nos jeunes vont partir pour une sortie. Donc, vous avez reçu une information. Si vous avez des questions, j'ai les détails ici. Venez me voir après le culte. Voilà. Alors, je poursuis. Voilà. Alors, là, Fanny Uchetti, qui est actuellement aux États-Unis, mais qui sera bientôt de retour. C'est l'oratrice de cette grande rencontre à la cathédrale de Lausanne qui a lieu le dimanche 6 décembre. C'est en faveur des différentes ONG. Les autorités seront présentes et nous sommes invités aussi à venir soutenir Fanny dans cette grande responsabilité qu'elle porte dimanche 6 décembre, 18h. Le mardi 8 décembre, pour les heureux élus, c'est le repas du fil d'argent dès 11h30. Et pour nous tous, et aussi pour nos invités, le dimanche 20 décembre, à 15h30, c'est notre fête de Noël, ici, dans nos locaux. Donc, il y a de la place pour la participation. Si vous avez des propositions, allez voir Paul Robert Chanson. Je t'invite juste de te lever, Paul Robert. Donc, vous allez vers Paul Robert pour apporter vos suggestions. Voilà, nous allons retrouver la famille Saillant en Italie, mais c'est à l'Ascension de l'année prochaine. Mais déjà, il y a une liste en sortant. Vous êtes invités à vous inscrire directement pour l'organisation pratique. Culte inter-église, on regarde loin, mais c'est aussi maintenant qu'il faut être informé. Il y a le culte inter-église le dernier dimanche de janvier. Ce sera tout dans vos mémos que vous aurez dimanche prochain. Mais il désire dans ce culte qui sera à la fin janvier qu'il y a des stands avec les artistes, des possibilités de faire des expositions, mais c'est maintenant qu'il faut s'annoncer. Donc venez me voir si vous êtes dans cette catégorie, que vous avez quelque chose que vous pouvez apporter dans cette journée. Voilà, les paquets de Noël ont été fabriqués et c'est l'occasion de dire un grand merci à Béatrice Lédevant et son équipe pour tout le travail et merci à chacun d'entre vous pour ce que vous avez apporté. Voilà. Alors, Véronique Debold a accouché d'un petit Oscar. Paraît-il que tout se passe bien. Et donc, nous avons le privilège aussi d'entendre le gazouillement d'autres bébés parmi nous. Mais il y a un sujet que je dois vous aussi communiquer, c'est-à-dire que Jessica et Joël Dupertuis, Jessica étant un bébé, mais elle a dû être hospitalisée samedi parce qu'elle a perdu les os, 26e semaine. Donc, prions pour Jessica et pour le bébé, qu'il peut encore patienter un bon moment. Nous allons prier dans un instant. Excusez-moi toutes ces annonces. On arrive à la fin. En partant, prenez un exemplaire de quart d'heure pour l'essentiel. Ça vient de sortir vendredi dernier. L'idée, c'est que vous preniez l'exemplaire pour le découvrir. Cette année, ce sera distribué tout ménage sur le canton de Genève. Il y a des églises, parmi lesquelles la nôtre, qui sponsorisent cette distribution, mais il y a encore beaucoup de besoins de soutien. Donc, il y a un bulletin de versement à l'intérieur si on a à cœur de soutenir cet effort. Ce journal, je l'ai parcouru, ça a l'air super bien fait. Découvrez-le, et si vous voulez soutenir cet effort, il y a un bulletin à l'intérieur. Donc, donnez le pas tout de suite avec le bulletin, c'est pas l'idée. En sortant, sur le tableau, il y a des petits papillons qu'on peut prendre aussi pour aider nos jeunes dans l'effort de la Kandski qui est directement le 26 décembre. Donc, comme chaque année, nous pouvons apporter des affaires pour leur besoin de manger pendant ce camp. Alors, ça fait beaucoup de choses. On va aussi fabriquer des biscuits le 4 décembre, qu'on va distribuer le samedi 5. Apportez-les aux jeunes le vendredi 4. Ce serait dans votre mémo. Je laisse la place à Joanne qui va nous encore transmettre quelque chose et puis c'est fait.
une dernière annonce, mais qui va bien montrer la fin du culte. Quand vous quittez les lieux, est-ce que vous pouvez... J'ai besoin d'avoir toute la place pour mettre des tables. Cette rangée-là, empiler les chaises là, cette rangée-là, empiler les chaises dans ce sens, cette rangée, empiler les chaises de la rangée et les laisser sur place. Merci beaucoup.
Voilà, je vous rassure, je ne vais pas faire une deuxième prédication. Ah, si vous voulez, on peut... Non, j'aimerais simplement prononcer les paroles de bénédiction qui viennent de Nombre 6, versets 24 à 26. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Soyez bénis. Bonne semaine et bon dimanche.